Prenez votre Bible en Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, pour ceux qui écoutent le message par MP3, nous avons lu Proverbe 31, les versets 10 à 31 tout à l'heure, la femme excellente. Et maintenant nous abordons le passage de la prédication de ce matin. Pour avoir un peu de contexte, nous commençons au verset 12 et nous allons lire jusqu'au verset 1 du chapitre 4, donc pour avoir tout le trajet. Mais notre point focal, c'est le verset 18. Mais lisons au verset 12. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous avec sa richesse, instruisez-vous, avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises, chacune, à votre mari, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez chacun votre femme, et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'il ne se décourage. Serviteurs, c'est-à-dire employés pour nous, dans notre contexte, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, vos patrons. Et cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, employés, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur en servant votre patron. Ça, c'est le contexte. C'est car celui qui agit injustement récoltera selon son injustice, et il n'y a pas de considération de personne. Maître, maintenant les patrons, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Nous allons poser quatre questions vis-à-vis du verset 18 que je relis. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Et les hommes, attendez seulement la semaine prochaine. Ok? Vous allez déguster. Aujourd'hui, c'est les femmes. Je vous parle, les dames. Si vous n'êtes pas marié, vous le serez peut-être un jour. Si vous êtes veuve, vous avez à conseiller les plus jeunes femmes. Si vous êtes marié, vous êtes en plein dedans. D'accord? Donc, nous allons poser quatre questions. Mais vous savez que cette consigne « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari » ne peut pas être prise en isolation des autres consignes, comme « Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. » Donc, les deux vont ensemble, mais la semaine prochaine, on aborde l'autre. Première question. Pourquoi est-ce que Paul ne donne qu'une seule consigne aux femmes? N'êtes-vous pas étonnées, les dames? Une seule consigne est celle-là. Est-ce qu'il n'y a pas plus que cela dans le fait d'être épouse? Est-ce qu'il n'y a pas plus que de devoirs que cela? Soyez soumise à votre mari. Pouah. Oui, il y a beaucoup plus. Et dans d'autres passages bibliques, vous trouvez d'autres consignes et d'autres devoirs de l'épouse et de la maman. Mais vous avez remarqué que ce n'est pas seulement vous. Pour les autres, pour les hommes, il y a aimez votre femme et ne vous aigrissez pas. C'est tout. Pour les enfants, obéissez à vos parents. Paul est en train de se focaliser sur la chose qui ne vient pas naturellement. Et il y a plein de choses que vous, les dames, en tant qu'épouses, vous faites de bon cœur sans même essayer. N'est-ce pas? Ça coule de source. Mais il y a des choses qui sont un peu moins naturelles. Et là, Paul focalise sur cela. Mais il y a peut-être une autre raison aussi. Avez-vous remarqué que chacune de ces exhortations concerne une relation entre deux personnes dont une est dans l'autorité et l'autre subordonnée à cette autorité? Père et enfant, serviteur et maître, mari et femme. Pourquoi ça? Alors, regardez la vie. La vie est faite de relations avec d'autres, n'est-ce pas? Et dans la plupart de ces relations, vous êtes dans des relations d'autorité et de subordination. Vous êtes citoyen sous un gouvernement. Vous êtes employé sous un patron ou patron au-dessus des employés. Vous êtes étudiant sous l'autorité du professeur. Et vous y passez beaucoup de temps dans cette relation, n'est-ce pas? Vous êtes enfant. Pendant des années, vous vivez dans le contexte qui définit votre vie, qui est un contexte de subordination à l'autorité parentale. Et vous êtes femme, alors vous avez un mari qui est chef de la famille. La vie est remplie, vous ne pouvez pas y échapper. Je suis sûr que maintenant, en ce moment même, vous êtes dans au moins 3 ou 4 relations d'autorité et subordination, quelque part. Même Emmanuel Macron. Il est patron du pays, mais il a un père et il doit à ce père un respect que son père ne lui doit pas de la même façon. Il est encore dans une relation de fils au père. Oui, c'est comme ça. Mais pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi est-ce que le monde est comme ça? Une simple raison, messieurs, dames, c'est que toute l'existence et tout ce qui est bien vient du fait que Dieu est maître, vient d'un Seigneur. Tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes de bien, vient parce que Dieu impose, il fait ce qu'il veut, il est Seigneur, il bénit, il agit, il prend l'initiative, il n'attend pas pour que quelqu'un lui suggère de créer un univers, il est leader, il est chef. Et c'est pour cela que nous sommes là, et c'est pour cela que nous avons toutes bonnes choses. Toute votre vie et votre existence est vécue sous l'autorité bienfaisante de Dieu. Mais pour concrétiser son autorité bienfaisante, Dieu délègue une partie de ça à différentes personnes. Et donc, la Bible dit ceci en Romains 13, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures humaines, comme le gouvernement ou le papa, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Même si ces autorités ne sont pas parfaites et ne font pas toujours ce qu'il veut, Dieu. Je dois dire une chose de plus dans cette petite introduction, cette question d'introduction, c'est que l'autorité de Dieu est un peu spéciale, un peu beaucoup. Quand moi je dis autorité, qu'est-ce que vous pensez dans votre tête? Vous pensez dicter, tyranniser, mettre sous sa coupe. Vous êtes français. L'autorité est le plus gros mot des gros mots. N'est-ce pas? Mais quand la Bible parle de l'autorité, la Bible parle d'une chose très différente. Pour le dire, la Bible utilise souvent l'image du berger et la manière dont il est en autorité au-dessus des brebis. Savez-vous qu'il y a 1 milliard de brebis dans le monde aujourd'hui, de cette espèce domestiquée qu'on connaît en tant que brebis? Et savez-vous que les brebis ne peuvent pas vivre de manière sauvage? Si tu mets une brebis là dans la forêt ou quelques brebis, c'en est fini pour eux, pour elles. D'accord? La brebis telle qu'il est maintenant est faite pour vivre sous la protection, le soin et l'autorité du berger qui le dirige. Mais pourquoi le dirige-t-il? Vers des eaux paisibles, vers des verts pâturages. Pourquoi est-ce qu'il empêche avec sa houlette d'aller là pour ne pas se prendre dans ce buisson? L'autorité divine est pour nous mener, oui, nous diriger, mais aussi pour nous protéger, nous bénir, nous nourrir et prendre soin de nous. C'est ça le sens de l'autorité. Et attention les pères, juste un petit clin d'œil, Dieu ne vous donne pas l'autorité pour rester sur votre canapé et manger des chips. Dieu vous donne l'autorité pour pouvoir bénir votre femme et votre famille. Alors, femme, soyez soumise à vos maris. Pourquoi Paul le dit? Et je finis ainsi ce premier point. Parce que sans la soumission, la bonne soumission que je vais vous décrire ce matin, vous ne pouvez pas aimer votre mari, vous ne pouvez pas aimer un homme sans la soumission. La bonne sorte, pas la mauvaise. Ce n'est pas possible. Une femme soumise peut, mais vous ne pouvez pas. Deuxièmement, vous ne pouvez pas aider votre mari. Vous êtes appelé à être un aide qui lui correspond. L'homme est fait de manière incomplète. Il a besoin d'une femme. Une femme, ce n'est pas quelqu'un nécessiteuse qui a besoin d'être mariée. La femme est quelqu'un qui aide son mari. Elle a des besoins aussi. Mais la femme est quelqu'un dont le mari a besoin. Elle est une aide qui lui correspond. Mais vous ne pouvez pas aider votre femme, votre mari, pardon, si vous faites à votre tête, si vous ne suivez pas le leadership de votre mari. Vous ne pouvez pas l'aider comme une femme qui soutient sa direction peut l'aider. Et troisièmement, sans la soumission, vous ne pouvez pas être une femme épanouie. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu a fait les choses ainsi. Vous ne pouvez pas vous jouir de l'affection de votre homme et de son soin si tout le temps vous êtes contre son autorité. Il ne va pas avoir de l'affection pour vous. Il ne va pas prendre soin de vous. Et vous savez ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui? Quand les féministes disent « Nous ne voulons pas être sous l'autorité des hommes, ne m'ouvrez pas la porte. » Ok, je t'ouvre pas la porte, mais ça veut dire que tu es laissé à toi-même. Oui, quand tu enlèves cette relation où l'homme est un chef pour ton bien, tu es largué. On ne t'ouvre plus la porte. Et ça va arriver dans ton mariage si tu ne connais pas ce que c'est que la soumission biblique. Deuxième question. Qu'est-ce que la soumission à laquelle Dieu vous appelle en tant que femme et épouse? Maintenant, puisque nous vivons en 2018, je dois prendre un bon moment à vous dire ce que ce n'est pas la soumission. Parce que aujourd'hui, le monde a pris beaucoup de peine pour essayer de plaquer dans votre tête une caricature monstrueuse. De telle sorte que même le mot soumis, normalement je ne devais même pas utiliser aujourd'hui parce que le mot en français signifie pas ce que je veux dire tout au long de ce message. Le mot soumis veut dire quelque chose de mauvais aujourd'hui en France parce qu'on a tellement caricaturé cette réalité. Alors moi, sous la parole de Dieu, je vais essayer de vous aider maintenant à enlever les nuages de votre tête, les chères dames. Premièrement, la soumission de la femme à son mari, ce n'est pas la même sorte de soumission que toutes les autres soumissions. Je veux dire que la soumission réveille des formes différentes selon la sorte de rapport qui existe entre l'autorité et le subordonné. Par exemple, une femme ne se soumet pas à son mari comme un enfant se soumet à son parent. Ce n'est pas la même sorte de soumission. Une femme ne se soumet pas à son mari comme un employé se soumet à son patron. Ce n'est pas la même sorte de soumission. En tant que jeune enfant, en Amérique, au sud de l'Amérique, je répondais toujours à mon père, « Yes, sir. » Oui, papa, oui, oui, papa maître, enfin, c'est, oui, sire, si vous voulez. C'était dans la culture. pas de question. Mais en tant que mari, je n'ai pas une telle autorité sur ma femme. Parce que nous vivons en tant que père, P-A-I-R-E-S. Nous vivons en tant que père qui sont dans une relation conjugale et romantique où nous devenons un. Nous sommes des égaux ensemble. Et je l'amène, mais je l'amène comme une épouse et non pas comme un employé ou un enfant. Deuxièmement, je dirais juste que Jésus-Christ ne mène pas son Église comme sa fille, mais comme son épouse. Deuxièmement, la soumission, ce n'est pas un appel aux femmes de se soumettre à tous les hommes. Vous avez remarqué dans le verset, « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari. » La soumission dont vous faites preuve à votre mari, vous n'êtes pas obligé de montrer ça à tous les hommes. Vous pouvez être patronne dans une entreprise où c'est vous qui contrôlez beaucoup d'hommes. D'accord? Mais la reine d'Angleterre, dans son foyer, elle n'est pas reine. Ou ne devait pas l'être si elle est chrétienne. Troisièmement, Dieu n'appelle pas la femme à obéir universellement à son mari ou à le mettre à la place de Dieu. Si un mari appelle sa femme à mentir à son patron au téléphone, « Oui, mon mari est malade !» Vous lui dites, « Non, mon mari, je ne le fais pas. » Votre mari ne peut pas vous obliger de pécher contre votre Dieu. Ce n'est pas possible. Si votre mari vous bat et demande que vous soyez complice ou soumise à cela, votre amour doit se manifester en appelant la police à l'arrêter. Parce qu'il n'est pas aimant d'être complice en aidant quelqu'un à continuer à faire un tel mal. Ensuite, la soumission ne sous-entend pas l'infériorité. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la Bible dit qu'il s'est soumis à ses parents. Il n'est pas leur inférieur, je vous assure. La Bible dit que dans le cadre du salut, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Mais vous êtes tous un en Jésus-Christ. Chère dame, vous êtes créée dans l'image de Dieu au même titre que votre mari, et vous êtes rachetés et rendus co-héritiers du salut au même titre que votre mari. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas d'infériorité. Et vous savez que dans le lieu de travail, le fait que Jacques soit votre patron et que vous soyez l'employé ne signifie jamais que vous êtes inférieur à Jacques. Souvent, vous êtes, les employés sont bien supérieurs à certains égards. Et le patron ne comprend même pas ce que peuvent faire certains de ses employés sur le plan technique et autres. Donc, ce n'est pas une question d'infériorité. Ensuite, la soumission biblique de la femme n'est pas une posture timide et craintive envers ton mari. En 1 Pierre 3, 6, la Bible nous dit que les femmes doivent être comme Sarah, qui obéissait à Abraham. C'est d'elle que vous êtes devenus les descendants si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et le contexte, c'est des femmes qui sont mariées à des maris non chrétiens, mais elles doivent se conduire sans crainte vis-à-vis de ces maris, mais avec docilité et amour. Ensuite, la soumission, ce n'est pas un appel à, renoncer à ta réflexion indépendante. Je suis soumise, tout ce que mon mari dit, j'accepte comme ça sans rien réfléchir. Nous avons lu tout à l'heure dans Proverbe 31 ceci. Elle, la femme excellente, ouvre la bouche avec sagesse et l'enseignement bienveillant est sur sa langue. Elle surveille la marche de sa maison et ne mange pas le pain de la paresse. Elle réfléchit et elle achète un champ. D'accord ? Elle prend des initiatives. Ensuite, restez avec moi. En t'appelant à te soumettre à ton mari, Dieu ne t'appelle pas à renoncer à remarquer ses faiblesses et ses fautes. Et même, il t'appelle pas à renoncer à tes efforts pour l'influencer et pour guider ton mari. Bien sûr, vous avez vu Abigail dans le passage que nous avons lu. Et donc, elle constatait, elle comprenait fort bien les faiblesses et les péchés de son mari. Et quand Pierre s'adresse aux femmes qui sont mariées des maris non chrétiens dans 1 Pierre 3, il les incite à réfléchir sur cette situation. Comment se conduire. Et il ne s'adresse pas au mari, et vous allez dire à votre femme que j'ai dit, non, il s'adresse directement aux femmes, parce qu'elles ont une réflexion indépendante. La soumission à ton mari ne signifie pas qu'il existe des domaines dans votre vie ensemble où c'est toi qui as l'autorité. Il y a des dames qui pensent que si je suis soumise, ça veut dire que moi je gère rien, mon mari est le chef de tout. En tout cas, ce n'est pas ce que la Bible dit. Vous avez remarqué que dans Proverbe 31, elle réfléchit à un champ et l'acquiert. Pas lui, pas le mari. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle a des serviteurs. Cette femme a beaucoup de domaines où elle est le chef parce que, comme dans ma vie, j'ai été vraiment béni d'avoir une femme qui est très compétente dans beaucoup de domaines. Et dans ces domaines, je suis content de déléguer l'autorité. Et c'est elle qui gère et elle me met au courant. Voilà. Parce que vous savez qu'un bon leader, ce n'est pas celui qui prend toutes les décisions. Jamais. Le fait d'être leader, c'est pas de tout faire, de tout commander. C'est de savoir où déléguer, comment mettre en valeur les dons et les compétences de chacun, n'est-ce pas? Et c'est comme ça dans le mariage. La soumission, ce n'est pas un état, chère dame, qui va vous étouffer et vous empêcher de développer vos dons et vos capacités. Voilà ce que le monde nous fait croire. La femme soumise, elle est pieds nus à la maison, elle ne bouge pas de la maison, elle fait deux choses, le babysitting et la vaisselle. N'est-ce pas? c'est la caricature. Même si elle a un doctorat en agronomie. Donc, mais vous avez vu dans Proverbe 31 que cette dame est commerçante, agent immobilier, couturière, conseillère. J'ai essayé de penser pendant mes 29 ans de mariage, qu'est-ce que Nikki a été, dans quel domaine est-ce qu'elle a brassé? Et là, j'ai pris juste les 20 ans où elle était, entre guillemets, femme au foyer. OK? Vous savez, j'aime pas ce mot. C'est vraiment un mauvais terme. Femme au foyer, moi, je l'appelle femme qui est partout sur la brèche. C'est ça, une femme au foyer. Parce que ma femme a été éducatrice. Tous nos enfants lisaient avant le CP. Ma femme leur donnait des cours de lecture. Ils lisaient en anglais avant d'aborder l'école publique en français. Elle a été éducatrice, enseignante, conseillère, infirmière, je parle dans le cadre de notre famille, hein, économe chargée des achats et des relations avec les fournisseurs, moniteur de colonies de vacances, cuisinière, maîtresse d'hôtel 3 étoiles, conductrice spirituelle et théologue, travailleur social chargé d'assistance aux SDF. Oui, ma femme a pris chez nous des gens qui n'avaient pas de logement. Je pourrais continuer la liste. Musicienne. Donc, la soumission n'est pas une chose qui vous étouffe dans l'exercice de vos capacités. Ensuite, j'ai deux choses de plus, et puis on va aborder qu'est-ce que la soumission. La soumission n'est pas une chose passive, résignée, où on acquiesce simplement dans ce que le mari impose. Regarde la vie de Jésus. La vie de Jésus est une longue vie de soumission à son Père. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même, je ne fais que ce que je vois faire au Père, que ce que le Père me commande. Le Père m'a envoyé, je ne fais que la volonté de mon Père. Toute sa vie est une longue soumission. Est-ce que la vie de Jésus est une vie passive et résignée? Il n'y a aucune personne dans l'histoire humaine qui est plus active, qui est plus variée dans son activité, qui est plus zélée, qui est plus déterminée que le Seigneur Jésus. Et tout cela se passe sous la soumission du Père, qui l'envoie pour être actif et pour faire toutes ces choses. Chère dame, si vous êtes soumise à votre mari, cette soumission vous plonge dans une situation où vous aurez 1 000 challenges. 1 000 challenges, dont la moitié, c'est avec lui. C'est comment le gérer, lui. Donc, c'est pas une vie passive et résignée, en tout cas, si vous comprenez bien. La dernière chose, c'est que la soumission, c'est pas, ne signifie pas que tu es la seule personne qui sert, alors que ton mari est la personne qui servit. N'est-ce pas? C'est la caricature. Amène-moi quelque chose de froid à boire. N'est-ce pas? Enlève mes pantoufles, s'il te plaît. N'est-ce pas? Que si tu es la personne soumise, c'est toi qui sers. Alors, écoutez ceci. La Bible a un concept d'autorité et de subordination qui est vraiment complètement différent. Et dans ce concept, tout le monde passe leur vie à servir, qu'il soit l'autorité ou le subordonné. Seule chose qui diffère, c'est la sorte de service. Et c'est pour cela que vous allez voir la semaine prochaine que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Christ est le maître, mais il passe sa vie à nous servir, à se donner pour nous. Et c'est ça le concept biblique de l'autorité. Le mari, vous êtes un serviteur leader. Serviteur-leader. D'accord? Et la femme, l'épouse, vous êtes une servante-subordonnée. La seule chose qui change, tout le monde sait. Demandez à ma femme combien de temps je passe à faire la vaisselle. N'est-ce pas? Et à l'aider de mille manières. À l'aider pour qu'elle puisse faire tout ce qu'elle a à faire. Mais le service diffère. Prenons le berger et les brebis encore. Les brebis servent le berger parce qu'elles lui donnent la laine, elles lui donnent la viande quand vient le moment de l'abattre pour la viande, si c'est pour cela. En tout cas, les moutons sont pour lui. Mais lui, est-ce qu'il est le maître ou le serviteur des moutons, des brebis? Difficile à dire. En fait, facile à dire, les deux. Parce que quand on est berger des brebis, on passe sa vie à quoi faire? À les servir, à les mener ici, à les amener là, à les protéger, à les panser, à les nourrir. Et moi, je suis le maître de ces brebis. C'est ça le concept de l'autorité biblique. OK? Et donc, dame, vous n'êtes pas la seule à servir puisque vous êtes soumise. Maintenant, et très courtement, qu'est-ce que la soumission de manière positive? Écoutez bien, je vais vous donner une définition. Soumettre pour vous en tant qu'épouse, c'est reconnaître l'autorité et la responsabilité de ton mari établi par Dieu pour te mener, et c'est accueillir son autorité et la soutenir par ton obéissance quand il doit prendre une décision finale ou établir une orientation pour le couple ou la famille, et aussi soutenir son autorité par tes efforts de nourrir et fortifier ses capacités d'être un bon leader et chef du couple et de la famille. Tu le soutiens en tant que leader. Et je vais maintenant affiner ça un tout petit peu. Donc, nous avons vu les deux premières questions. Les deux dernières sont rapides. Troisième question. Comment est-ce que la femme chrétienne se soumet à son mari? Et vous dites, oh, David, pourquoi est-ce que tu pries tant de temps pour arriver là? Comment le faire? Tes ressources, numéro 1. Il faut avoir des ressources, et les ressources sont dans les versets 12 à 16. Si la paix de Christ ne t'habite pas, si la parole de Christ n'habite pas en toi dans toute sa richesse, si tu ne te revêts pas de compassion, de bonté, etc., si tu ne marches pas avec Jésus-Christ, oublie l'idée de devenir une femme qui aide et soutient l'autorité de son mari. Ce sera impossible. Deuxièmement, tu as des ressources, tu as un point focal. Pour être une femme soumise de manière biblique, il faut que tu te focalises dans ton mariage, non pas sur ce que ton mari doit être, mais ce que tu dois être en tant que femme qui le soutient et qui l'aide. Combien de problèmes dans le mariage? Parce que le mari a beaucoup de défauts, je suis d'accord. Mais parce que la femme passe sa vie à penser à ce que lui doit être et ne voit jamais qu'elle est complètement en faute vis-à-vis de lui. Complètement. Un employé qui passe sa vie à penser à ce que le patron ne fait pas est un mauvais employé. Il est mauvais. Il doit s'occuper d'être un bon employé et ça le met dans la position de dire de la bonne façon au patron, est-ce que nous ne pourrions pas mieux faire en faisant, n'est-ce pas? Donc, tu as des ressources, tu as un point focal, et le point focal, c'est « je vais être ce que Dieu veut de moi ». Et vous avez remarqué que dans tous les cas que nous avons dans ce passage, enfant-parent, femme-mari, employé-employeur, Dieu s'adresse toujours aux subordonnés avant de s'adresser à l'autorité. Vous savez pourquoi? S'il s'adressait d'abord au mari et ensuite aux femmes, vous vous diriez, quand mon mari fait ce qu'il doit faire, moi je ferai ce que je dois faire. Et Dieu est très sage. Il vous adresse avant qu'on ne pense même pas à ce que votre mari doit être. Vous devez déjà être soumise. D'accord? Les ressources, le point focal, la confiance. Écoutez bien, c'est une affaire de foi. Comment est-ce qu'une femme peut se soumettre à un homme qui est forcément imparfait et pécheur? Une femme ne se soumet pas à son mari parce qu'elle a confiance en lui. Une femme chrétienne se soumet à son mari parce qu'elle a confiance en Dieu qui l'a placée sous ce mari. Et ça change tout. Quand la femme se dit, Dieu me dit, je suis Dieu, j'ai fait le mariage, je t'ai donné ce mari, c'est celui que je veux pour toi, alors maintenant fais ce que je veux et moi je m'occupe du reste. Fais ce que je veux et je m'occupe moi du reste. Alors avec cette confiance, on peut vivre devant Dieu et rappelons-nous que dans toutes les... je m'arrête là. Juste pour vous dire que si votre mari est difficile, et nous sommes tous difficiles quelque part, sachez que Dieu a le droit de vous mettre là où il veut, dans la bataille entre le bien et le mal dans ce monde. Pour vous, c'est le problème avec un mari irritable ? Allez avec moi en Arabie Saoudite. Là, voilà une chrétienne dont le problème est que sa vie est en péril chaque jour, de persécution ou même de mort parce qu'elle est chrétienne. C'est là son point dans la bataille. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux aller en Arabie Saoudite ou tu veux rester avec ton mari irritable ? Voilà. Dieu a le droit de nous mettre, et nous allons tous être dans une situation où le mal est présent, où nous sommes mis là exprès pour être une force de bien. Foi, 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 ayez la confiance. Dieu m'a mis là, justement, pour que je puisse être une force de bien. Les ressources, le point focal, ta confiance, quatrièmement, ton sens de vocation divine. Maintenant, le passage nous dit que « Femmes, soyez soumises chacun à votre mari comme il convient dans le Seigneur. » Alors, et quand nous allons plus loin dans le passage, les serviteurs doivent obéir non pas comme pour plaire aux hommes, mais comme au Seigneur, comme devant le Seigneur, comme s'ils servaient le Seigneur en faisant leur boulot dans l'usine. Alors pour la femme, pour vous les femmes, c'est la même chose. Vous devez de plus en plus avoir un sens de vocation divine. C'est Dieu qui m'a mis dans cette usine en tant qu'employé. C'est Dieu qui m'a mis dans ce mariage en tant qu'épouse. Dieu! Et chaque fois que j'aime mon mari, que je le soutiens, que je l'aide, alors je suis en train d'abord de faire une chose sous les yeux de Dieu et pour Dieu. Et une femme qui commence à savoir que c'est ça, vraiment, elle commence à avoir un sens du privilège. La femme qui est maman, elle sait que Dieu l'a mis dans la place. Je pense presque que c'est le pivot qui tourne la planète, la place de la maman. Parce que c'est vous, les mamans, qui ont la plus d'influence sur la vie de celui qui va devenir Einstein ou Macron ou qui sais-je. c'est vous. C'est une vocation haute et divine. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Mais aussi pour votre mari. Vous savez, les dames, vous êtes la seule personne qui sait vraiment qui est ce mari et qui le sait dans la profondeur de ses atouts et de ses défauts. Vous êtes la seule à savoir ça. Ça veut dire que vous êtes la seule qui peut prier pour lui dans ce qui concerne les plus profonds de ses besoins. Dieu vous a donné vraiment une vocation divine, une place. Personne ne peut influencer un homme comme sa femme quand elle est une femme soumise de la bonne manière. Ça, c'est paradoxal, n'est-ce pas? Elle est soumise, mais elle influence son mari. Elle change son mari de la bonne manière. Ça, c'est le sens de vocation divine. Cinquièmement, il y a aussi ton service. Et ça, c'est simplement que tu te mets dans cette place où tu veux servir ton mari. Ton mari est appelé par Dieu, il a une vocation. Cette vocation est une vocation, un métier, quelque chose qu'il est appelé par Dieu à faire. Il est tourné vers cette vocation. Dieu t'a fait et il t'a tourné, non pas vers une vocation, principalement, même si tu en as une, il t'a fait tourner vers ton mari. Il t'a fait pour lui, pour l'aider, le soutenir, pour qu'il devienne tout ce qu'il doit faire, et ensemble pour que vous soyez l'instrument de Dieu dans ce monde. D'accord? Donc, tournez vers lui, vous devez chercher à vous dire, comment est-ce que je peux aider mon mari, le soutenir Ensuite, il y a ta manière de gérer les décisions dans le couple avec ton mari. Si tu es soumise, ça va se passer un peu comme ceci. Vous avez une décision à prendre vis-à-vis de la vie d'un enfant ou quelque chose dans votre couple. Alors, en tant que femme soumise, tu vas écouter pleinement et attentivement ton mari. Qu'est-ce qu'il pense sur ce sujet ? Et ça va être très important pour toi. Après avoir écouté, tu vas lui dire tout ce que tu penses d'une manière aimante et respectueuse. Je vous parlerai, les hommes, la semaine prochaine, de votre respect pour votre femme. Et puis, vous allez accepter, les dames, vous allez accepter avec joie les fois où votre mari cède à votre préférence plutôt que la tienne. Non, 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 je ne pense pas. J'aime aller à Ikea. Parce que là, on voit... Non, 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 ça ne va jamais aller dans notre salon. Oui, mais oui. Et nous sommes allés à Ikea la semaine passée. Et on avait une différence d'opinion sur des chaises pour notre salle à manger. Et Nikki m'a dit à un moment donné, tu sais David, tu cèdes toujours à moi dans ce qui concerne la maison et sa décoration. Toujours. Cette fois, il faut que ce soit toi qui aies ce que tu veux. Vous allez voir mes chaises dans quelques jours. Mais c'est comme ça. C'est comme ça dans un couple. On cède mutuellement, mais en tant que dame, vous allez accepter joyeusement, avec gros bisous, lorsque votre mari dit ben, « Prends la couleur que tu veux pour ces rideaux. » Mais vous allez aussi céder avec joie et confiance au Seigneur, lorsque votre mari insiste à prendre une décision que vous pensez être moins sage qu'une autre. si ça ne vous oblige pas de pécher. Là, vous devez résister. Mais par exemple, Jacques, cette année, est-ce que Jacques, notre ado, est-ce qu'il va faire du sport et de la musique ou seulement du sport? Et toi, la maman, tu penses les deux. Et en discussion, ton mari arrive fortement à la conviction que non, c'est trop pour lui cette année. On va lui envoyer faire du sport uniquement. Et il prend la décision. Et tu acceptes joyeusement en te confiant à Dieu qui peut changer la vie de ton mari pour l'année prochaine s'il le faut, si c'est tellement important. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas la musique de Jacques, c'est vous. C'est que Jacques ait des parents qui marchent ensemble. Ça, c'est mille fois important que le fait qu'il fasse de la musique ou non. Et la dernière chose, le comment, c'est ta manière de répondre quand tu deviens mécontente de ton mari et son leadership. La femme soumise a une certaine manière de réagir quand elle se rend compte. Deux choses. Tu vois ton mécontentement comme un appel à regarder ton propre cœur comme ton plus grand problème. Je suis vraiment une personne mécontente, en colère. Je vis en... la tonalité, la musique de ma vie, c'est la frustration. Pourquoi est-ce que mon cœur est comme ça? Je ne peux pas blâmer mon mari, parce qu'il y a des dames qui ont des maris comme la mienne et qui n'ont pas cette attitude mauvaise et amère qui empoisonne toute la famille. Alors, donc, c'est un appel à vous, regardez votre cœur. Regardez votre cœur. Deuxièmement, quand vous êtes mécontent avec le leadership de votre mari, c'est un appel à le bénir et à prier pour lui. Parce que si ça ne va pas chez lui, il a d'autant plus besoin de ça. Ce n'est pas facile. Je n'ai jamais dit que c'est facile. Mais je dis que c'est la chose à faire. Si vous êtes employé et vous êtes mécontent du patron de l'entreprise, c'est la même chose. Il y a des employés qui vivent simplement dans le mécontentement et vous savez ce qu'ils font? Ils passent leur carrière à faire le minimum. Et ça, c'est une vie gâchée et gâtée. N'est-ce pas? Et il y a des employés qui utilisent cela pour dire, de toute façon, je vais faire ma part pour rendre cette entreprise le meilleur. Au moins, de mon côté, je vais être tout ce que le patron me demande, parce que je sais que c'est par là que je peux gagner son cœur et sa confiance peut-être un jour pour changer quelque chose. Et ça m'amène vers le dernier point. Les récompenses de la vie d'une femme soumise. Et là, je vais tenir ça en 2 minutes, franchement. 3 choses. Si tu vis une vie soumise, numéro 1, tu plairas à Dieu. Normalement, ça suffit, n'est-ce pas? Tu plairas à Dieu. Et tu reflèteras dans une mesure la soumission fidèle de l'Église à Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que le mariage existe pour cela. Deuxièmement, si tu vis en tant que femme véritablement et bibliquement soumise, tu auras la grande joie, mais franchement la grande joie, de gagner la confiance et le cœur de ton mari et l'admiration de tes enfants. Je vous le prouve. Qui trouve une femme de valeur, son prix dépasse de beaucoup de celui des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie son mari est considéré. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Beaucoup de filles ont une conduite de valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. Ça, c'est vraiment une récompense. Et troisièmement et dernièrement, si ton mari n'est pas chrétien, et il faudrait regarder 1 Pierre 3 pour avoir des consignes spéciales pour cette situation. Mais si ton mari n'est pas chrétien, c'est par cette soumission, ce soutien, que tu gagneras peut-être ton mari à la foi en Jésus-Christ et au salut éternel. Car Pierre dit ceci, « Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même... si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable d'un esprit doux et tranquille. Voilà qui a de... ce qu'il y a d'un grand prix devant Dieu. » C'est fort, n'est-ce pas? L'enseignement de la Bible sur la femme. Vous avez une place très active, très au service, très en initiative, mais avec le mari et en suivant sa direction, en l'aidant dans sa direction, c'est une vie épanouie pour celle qui s'y donne avec foi. Nous allons chanter.